La raison est-elle vraiment opposée à Dieu ?
Elle n'est absolument pas opposée à Dieu, la raison. En fait, on ne peut pas trouver de meilleur serviteur pour Dieu que la raison. C'est le serviteur parfait, le serviteur rêvé. D'ailleurs, nous-mêmes, si on avait à choisir comme serviteur entre un esclave, comme ça se faisait dans l'Antiquité, et un ordinateur hyper perfectionné, un super robot de compétition, un truc...
domotique, etc.
Ouais, ouais, et puis qui puisse faire des kilomètres, aller, venir...
D'accord.
On choisirait l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que l'esclave, il y a toujours un risque de trahison. Il y a toujours un risque qu'il se trompe, qu'il faiblisse, qu'il ait un accident.
Mmh.
Un ordinateur, il ne peut pas être libre. Il ne peut pas penser.
Donc c'est une question de liberté.
La perfection du service, c'est une question de liberté. Si tu prends ton balai et que ton balayisme a pensé, ça pose un problème quand même. Tu ne vas plus balayer, quoi.
Mmh. Hein ?
La raison, c'est ça. La raison, c'est une espèce de truc idiot, bête et méchant, qui applique des processus de cause et conséquence, de ratio, de logique. Donc ce n'est pas un ennemi de Dieu. Par contre, il y a bien un ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, c'est l'homme qui utilise mal la raison. C'est l'homme qui, en quelque sorte, fait tomber la raison, donc fait tomber la nature, donc fait tomber les dieux. Parce que les lois de la nature, ce sont comme des dieux. En tous les cas, dans l'Antiquité, c'était des dieux. Éole, c'était un dieu. Nous, on l'appelle le vent.
Mmh.
Hein ? Les sciences de la mer, c'était Poséidon. Mais nous, on appelle ça les sciences de la mer. Et donc l'homme qui va utiliser ces lois de la nature, ces dieux, de manière inappropriée, il les fait tomber. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il les met à un niveau qu'elles n'ont pas. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un roi qui amène le serviteur dans le lieu secret de son intimité, dans sa liberté, et qui lui offre sa liberté, et qui lui offre de participer à sa liberté. C'est comme si tu disais à un ordinateur de décider pour toi.
Oui.
Là, ça devient dangereux. Si la machine, elle se met à penser, à avoir conscience, et à être ton frère ou ta sœur, bah, c'est un peu comme mettre les animaux au même niveau que les hommes. Donc l'ennemi, il est là. L'ennemi, il est dans l'utilisation qu'on fait de la raison. Et c'est exactement ce à quoi fait référence le passage d'Ézéchiel 28, lorsqu'il dit, ben voilà, t'avais les richesses. C'est-à-dire qu'il parle de la prospérité de l'homme, des grandes structures.
Ézéchiel 28, c'est la description du roi de Tyr.
Oui, c'est ça, oui. Donc c'est la description des grandes réussites de l'homme. L'homme, il a en main la raison. Il a en main tous ses serviteurs, mais il en use mal. Il met ses serviteurs sur un trône qui n'appartient pas à ses serviteurs.
D'accord.
Et c'est pas le serviteur, c'est pas la raison qui peut... On n'a jamais vu un ordinateur se rebeller et venir être l'homme à la place de l'homme.
Bon, mais alors qu'appelles-tu la raison, juste ? On peut être raisonnable sans pour autant être un rationaliste.
Oui, en effet, on peut être raisonnable sans être rationaliste. Dans le mot rationaliste, il y a ratio, la raison. Et être rationaliste, c'est demander à la raison d'être légitime pour connaître la vie et pour gérer la vie.
Donc c'est un détournement du rôle de la raison.
C'est faire tomber la raison. C'est-à-dire que lorsque la théologie traditionnelle explique que l'homme est tombé, l'homme n'est pas tombé. L'homme a fait tomber les dieux.
Non mais faire tomber la raison ou la porter au pinacle ?
Eh bien la porter au pinacle, c'est la faire tomber. Parce que si tu amènes un serviteur sur le trône du roi, tu le portes au pinacle,
mm-hmm.
mais en fait tu le fais tomber. C'est le meilleur moyen pour le tuer, pour finir par l'achever, pour D'accord. le dénaturer et pour le rendre fou.
Le pervertir.
Parce qu'il ne pourra plus redevenir serviteur, mais il n'aura jamais les capacités d'être roi, parce qu'il n'est pas roi. Et donc, tu détruis tout. Tu détruis le roi, tu détruis le serviteur et son rôle de serviteur, et tu ne trouves pas de roi pour remplacer le roi.
Mm-hmm.
Tu retournes au chaos. Mm-hmm. Il faut faire tabula rasa après. Quand tu fais rentrer la raison dans l'intimité de l'homme, et l'intimité de l'homme, c'est sa volonté, c'est-à-dire sa liberté, c'est-à-dire que je veux que les choses soient comme ça, donc elles sont comme ça. Je veux que le mal, qui est aujourd'hui défini comme mal, demain, soit du bien. Parce que demain, c'est un autre jour. Et demain, je veux autre chose. Parce que je suis un homme. Mmh. Je ne suis pas un programme informatique. Je n'obéis pas à des données binaires. Et je n'obéis à rien, d'ailleurs. Je veux ce que je veux. Et ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer. Mais à partir du moment où tu veux que ta volonté soit gérée par une matrice binaire du bien et du mal, tu perds ta volonté. Donc évidemment, tu tombes, tu t'autodétruis. Mais tu tombes parce que tu as fait tomber un serviteur. C'est toi qui as l'initiative de cette chute d'un serviteur, de cette amputation, de cette subversion, de cette toxicité que tu as mis dans le serviteur en lui faisant croire qu'il était capable de devenir ce qu'il n'est pas en lui-même, les capacités qu'il n'a pas, eh bien tu t'auto-détruis toi-même et tu détruis le serviteur en même temps. Mmh. Donc tu détruis tout. Mais ça ne veut pas dire que l'être qui a de la volonté n'est pas pour autant un être raisonnable. Mmh. S'il n'est pas rationaliste, s'il laisse le serviteur à la place où il faut, dans les écuries,
oui.
Il est quand même raisonnable.
D'accord, il l'utilise à bon escient.
Il y a une parole pour expliquer cela, qui est une très belle parole de Kierkegaard. Kierkegaard dit dans Les miettes philosophiques, « L'existence n'est pas sans pensée, mais dans l'existence, la pensée se trouve dans un milieu étranger. » L'existence, c'est l'être. L'être existant. Celui qui veut. Celui qui est libre. C'est l'homme. Mmh.
Hein. Donc la pensée, la raison, la ratio, mmh. n'est pas dans son élément naturel lorsqu'elle collabore avec l'existence de l'homme.
Lorsqu'elle est dans l'intimité de l'existence de l'homme.
Voilà. Pour donner une image de cette citation de Kierkegaard, lorsque le serviteur, par exemple le cuisinier, a besoin de recevoir un ordre du roi, il se présente devant le roi dans la salle du trône, mais lorsqu'il est dans cette salle du trône afin de recevoir un ordre, il est totalement emprunté, il garde la tête baissée, il n'est là que pour recevoir cet ordre-là avant de retourner dans son milieu qui est les cuisines.
Et le monde du pouvoir, le monde de la volonté, le monde de la décision, c'est un monde qui lui est étranger. Hein. Donc Dieu n'est pas sans raison, il n'est pas sans pensée. Mais la pensée et la raison, pour Dieu, se trouvent dans un milieu extérieur à son secret.
Subalterne.
La raison est extérieure à son secret. Elle a un rôle de serviteur. Mais dans ce rôle de serviteur, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est l'ombre de Dieu. C'est-à-dire que la raison... par rapport à la liberté, ce sont des ténèbres. Parce que l'ordinateur n'a pas de liberté. Il est noir, il est absent. C'est pourquoi je parle de ténèbres.
Et pour l'homme ?
Et pour l'homme, normalement, c'est sa lumière. C'est sa vie. Il faut voir exactement ce qu'on dit dans la foi. La foi, c'est la volonté en action, en fait. Et c'est cette vie qui veut, et tout lui obéit, mais le serviteur ne va pas demander au maître de lui expliquer concrètement comment faire ceci ou cela. Si le roi appelle l'architecte, c'est son boulot à l'architecte de faire les plans, de dessiner, d'appeler les bâtisseurs. Ce n'est pas au roi de faire les dessins et de comprendre les lois qui vont permettre la construction du bâtiment et de tirer l'électricité. Donc les vérités de la raison, pour Dieu, ne sont pas des vérités. Ce sont des instants et des moments qui mettent en pratique sa volonté qui est toujours arbitraire.
D'accord, ce sont des outils.
C'est-à-dire que les lois de la raison ne sont pas pour Dieu éternelles. Elles le sont que pour l'homme qui est venu dire à la raison « participe à mon secret » ou plutôt « gère mon secret ». C'est-à-dire « je ne veux pas de ma liberté, c'est trop lourd, c'est trop dur à gérer ma liberté. Je préfère un monde parfait » organisé, où le bien c'est ça, et le mal c'est ça, et de manière éternelle. Mais pour un être qui gère sa vie par sa liberté, de manière arbitraire, et pour qui la liberté n'est pas trop lourde, une loi n'est jamais éternelle. Elle peut durer 100 ans, elle peut durer un an, elle peut durer un jour, elle peut durer une minute. Hein ? Mais elle n'est pas éternelle. La volonté est éternelle, la liberté est éternelle. Le pouvoir que l'individu, que l'être existant, Dieu a, est éternel. C'est pourquoi, lorsque la raison reste la raison, des lois du bien et du mal, elles sont parfaites, mais bien qu'elles soient noires au niveau de la liberté, c'est-à-dire absentes de liberté, ténèbres au niveau de la liberté, elles sont quand même l'ombre de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle lumière, pour Dieu, c'est une ombre, parce que ça n'a pas de liberté, c'est la raison. Mais nous, on appelle ça une lumière. Et c'est pour ça qu'on est des ratés. parce qu'on confond la lumière et les ténèbres. Et parce que la lumière de la raison nous est plus confortable que l'infini arbitraire d'une volonté qui n'est justifiée par rien, aucune loi.